Midi sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne, bienvenue si vous nous rejoignez et nous commençons cette émission par la délicieuse chronique culinaire de Clara, notre Lilloise. Aujourd'hui, elle nous parle de la tarte au sucre.
Salut, c'est Clara depuis Lille, au nord de la France, et cette semaine, j'ai décidé de vous parler de la tarte au sucre. Rien que d'y penser, je m'en lèche les babines. Peut-être qu'à Tours, vous ne connaissez pas la tarte au sucre. En effet, c'est un dessert traditionnel du nord de la France et de la Belgique. Bon, à vrai dire, on la trouve aussi au Québec, mais elle n'est pas tout à fait pareille. Dans le nord, la tarte au sucre, on l'appelle aussi tarte à gros bords. C'est en réalité une pâte levée qu'on vient saupoudrer de sucre juste avant la cuisson. Alors pourquoi parle-t-on de tarte à gros bords? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on vient étaler sa pâte levée, on en creuse légèrement le centre tout en laissant des gros bords. De cette manière, le sucre ne peut pas s'échapper et grâce à cette technique, c'est une tarte que l'on peut réaliser sans tourtière. Pour en venir au sucre, on peut utiliser du sucre blanc, normal, ou bien de la vergeoise qui est un sucre brun issu des betteraves sucrières et qu'on utilise dans beaucoup de recettes du nord de la France. Bon, par contre la tarte au sucre de nos cousins québécois, elle est assez différente. Et ça commence par la pâte puisqu'ils utilisent une pâte brisée et non une pâte levée. En plus, celle-ci est garnie d'une préparation à base de sucre, additionnée en général de sirop d'érable et parfois d'oléagineux tels que des noix ou des noix de pécan. Rien à voir donc avec notre tarte au sucre ch'ti. Car ici, la tarte au sucre ressemble quasiment à une brioche avec sa pâte levée. Ma grand-mère, mémé Monique, les tartes au sucre, elle a pour coutume d'en avoir en réserve dans son congélateur. Ainsi, lorsqu'on vient chez elle, elle en décongèle une et la fait réchauffer au four. Et oui, la tarte au sucre peut se manger tiède et c'est encore meilleur. Bon, allez, je vous ai assez fait saliver, voici la recette de ma grand-mère. Et ce qu'on va tout de suite noter, c'est que la tarte au sucre est réalisée avec des ingrédients extrêmement courants. En plus, elle est rapide à réaliser, il faudra juste savoir patienter le temps des levées. On commence donc par faire monter 20 g de levure de boulanger dans un peu d'eau tiède additionnée d'un carré de sucre. Le but, c'est que la levure devienne mousseuse. Pendant ce temps, on bat 2 œufs en omelette avec une pincée de sel et une pincée de sucre. On ajoute 200 g de farine, puis la levure qui normalement entre-temps aura monté et 100 g de beurre fondu. On pétrit bien le tout puisque la pâte doit se décoller des bords du récipient. Bien évidemment, c'est une étape qu'on peut faire au robot ménager ou bien à l'huile de coude. En général, lorsqu'on n'a pas l'habitude, au final on trouve que la pâte a un aspect un peu bizarre et plutôt gras, mais c'est normal et si vous avez bien suivi la recette jusqu'ici, tout devrait bien se passer. Ensuite, on recouvre le récipient d'un torchon, propre, je précise, qu'on aura au préalable humidifié et on laisse lever la pâte au minimum pendant 1 heure dans un endroit chaud. Puis, on graisse une tourtière et on vient y étaler la pâte. Pas besoin d'utiliser un rouleau à pâtisserie ou quoi que ce soit, vos mains devraient suffire. Et c'est parti pour une seconde levée d'une demi-heure à 1 heure, à nouveau dans un endroit chaud en ayant recouvert la tarte du torchon humide. Enfin, on saupoudre la tarte de sucre blanc ou brun et on l'enfourne 15 à 20 minutes à 200 degrés Celsius. À la sortie du four, si on a utilisé du sucre blanc, on répartira du beurre à la surface de la tarte et si on a employé du sucre brun, c'est de la crème fraîche qu'on viendra déposer. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir la tarte, mais les plus gourmands ne sauront pas résister et entameront sûrement la tarte tiède. Si vous voulez vous lancer dans la préparation d'une tarte au sucre, vous pouvez bien évidemment retrouver la recette sur le site de la cuisine de Mémé Monique.
مشوار صعب وطويل وبيمتحن روح بس كبر جسمي جابر قلبي لا يتحمل طعم الخل اللي لقيته بدل العسل صغير قبل ما العالم يمسك بآخر المشوار شقة أم أبيت عربية تمشي ومشوارك ما إلو ما تعمل كل شيء حتمار أصبا عنك رح
Merci Clara pour cette chronique culinaire sur la tarte au sucre. Nous allons à présent à la rencontre d'étudiants de licence 2 de l'université de Tours. Ils échangent avec Léa Toto et Yvan Petit, les réalisateurs du documentaire Quartier de mémoire sur le quartier du Sanitas.
Je suis étudiante en fac d'anglais et on nous a posé une question. C'est la question de la culture africaine à Tours et de la place de l'Afrique à Tours. Je suis pas vraiment sûre d'avoir une idée là-dessus, parce qu'au final, je pense que c'est quelque chose qui fait plutôt partie du quotidien. On vit dans un pays qui est assez cosmopolite et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet qui me sur lequel je me suis vraiment penchée, je pense. Voilà. Après, ça peut toujours être intéressant de découvrir des choses qu'on connaît pas. Là, nous, on est parti sur un sujet plutôt sur la mode, la beauté. C'est vrai que nos peaux, moi personnellement, je suis blanche, ma peau aura pas forcément besoin des mêmes choses qu'une peau noire, mes cheveux auront pas besoin des mêmes soins aussi. Du coup, c'est des questions qui se posent et on va voir ce qu'on va pouvoir en faire.
Alors bonjour, moi je suis aussi étudiante en anglais, art du spectacle. Donc l'Afrique à Tours, pour moi, disons, je me suis jamais posé la question avant maintenant. Je pense que ça vient du fait que c'est quelque chose de très quotidien, ça se fait dans la masse finalement. Oui, dans la vie de tous les jours, on peut croiser des personnes qui sont d'origine africaine, on peut effectivement se rendre compte que certains soins, admettons, comme nous on travaille sur le thème mode et beauté, que c'est aussi quelque chose de courant dans les soins. On trouve souvent dans les shampoings des choses qui sont inspirées des soins maghrébins. On peut vraiment en trouver un peu partout. Voilà, c'est un petit bout du monde qui s'inscrit tout simplement dans le quotidien. Voilà.
Pour moi, l'Afrique à Tours, c'est tout d'abord une thématique assez discrète à ma connaissance, dans le sens où c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément trop parler. Ça peut passer un peu trop inaperçu malgré l'avancée du multiculturel dans notre société française, notamment à Tours avec tous ses quartiers. C'est un art et une culture qui se doit d'être développée, à mon sens, parce que notamment dans la ville de Tours, car je pense qu'on a tout à apprendre si l'on fouille un peu et qu'on s'intéresse à ce qui est différent et inhabituel à notre propre culture. C'est de l'enrichissement personnel.
Pour moi, l'Afrique à Tours, c'est un thème d'interculturalité pas forcément abordé, mais qui, je pense, peut être intéressant au niveau de plein de points, notamment le quotidien beauté des personnes afro-européennes, qui n'est pas souvent abordé parce qu'on ne s'intéresse pas forcément à comment on peut s'adapter à d'autres cultures ou comment d'autres cultures s'adaptent aux autres.
Et voilà. Je suis étudiante en anglais à Tours. Pour moi, l'Afrique à Tours, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup à apprendre, qui m'est assez inconnu. Et je pense que donc on va travailler sur le thème de la beauté et à travers notre projet, je pense pouvoir découvrir un peu mieux ce thème qui est la culture africaine à Tours et sa place dans notre ville.
Avec le groupe, on pense que l'Afrique à Tours, c'est plus des rencontres avec les gens et un partage de culture.
Je suis en deuxième année de lettres modernes et je suis dans le module art du spectacle.
Je suis également en L2 de lettres modernes et en module art du spectacle.
Je suis en L2 lettres modernes, module art du spectacle.
Nous avons voulu travailler sur la danse africaine à Tours et sa place dans les milieux professionnels et amateurs.
Je m'appelle Lucie, j'ai 21 ans. Et pour moi, l'Afrique à Tours, c'est quelque chose de très vaste auquel je n'ai jamais vraiment réfléchi. C'est assez difficile à définir pour moi. En gros, c'est une culture vaste au niveau de la gastronomie, des arts et des langues.
Pour moi, l'Afrique à Tours, c'est une culture qui est très présente, mais qui reste très vague à mes yeux. Du coup, j'ai hâte d'en apprendre plus.
Pour moi, l'Afrique à Tours, c'est peut-être les petites échoppes traditionnelles, parfois quand on passe dans la rue, mais je ne saurais pas trop répondre à la question, franchement.
Je m'appelle Chloé, j'ai 19 ans, et l'Afrique à Tours, c'est pas vraiment une question à laquelle j'ai déjà réfléchi avant, mais je dirais que c'est un mélange de différentes cultures, et je verrai bien à quoi ça ressemble au long du semestre.
Dans notre groupe, on va travailler sur les étudiants africains venus travailler à Tours. Pour moi, ce thème, il m'évoque pas grand-chose pour le moment, parce que dans mon entourage, j'en connais pas. Du coup, je suis très contente de travailler sur ce thème, parce que je pense que ça va m'apprendre beaucoup de choses.
Pour moi, l'Afrique à Tours, c'est des gens, une culture, un groupe qui sort du lot. On les trouve partout, dans l'art, la gastronomie, les établissements publics comme les universités, l'école, etc. Je trouve qu'on les perçoit facilement, de par de leur couleur de peau, mais ce serait un argument bien trop injuste que de les remarquer pour cela. Ils ont une gestuelle, une façon de parler, de marcher dans la rue, de communiquer avec nous, qui est très distincte, je trouve. Et je trouve que c'est un sujet intéressant que de s'intéresser à leur présence à Tours, notamment les étudiants africains dans les universités de Tours.
Pour moi, l'Afrique à Tours, c'est un peu une subcatégorie de la diversité de la jeunesse de Tours.
Une Sénégalaise. Alors aujourd'hui, notre thème du semestre, ça sera d'étudier les étudiants africains à Tours, comme moi. Donc je serai ravie d'aider mes collègues, mes partenaires à avancer dans ce thème et à trouver aussi une belle culture qui est la culture africaine, surtout pour ceux des étudiants qui ont quitté chez eux pour venir à Tours et faire leurs études. Merci.
J'ai 20 ans, je suis étudiant à Tours, à l'LCE anglais. Et à la question, qu'est-ce que je pense de l'Afrique à Tours? Et déjà, je me pose pas vraiment la question. Je pense que moi, je suis pour l'égalité de tout le monde. Alors, je vois pas de différence entre les noirs et les blancs, les jaunes, les verts. Alors, je me pose pas du tout la question. Et par contre, un truc que je remarque, c'est que étant L2 en anglais, j'en vois pas beaucoup des gens de couleur, tout simplement, que ce soit noir ou pas. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire, je pense.
Je suis étudiante aussi à la fac de Tours, donc pour moi la culture africaine, elle est présente aussi bien dans les arts comme la musique. J'ai vu un groupe de gospel avec des femmes africaines cet été à la guinguette, aussi dans la danse. Il y a des clubs de danse, il y a l'association Courteline où je suis inscrite et je fais de la Zumba, ils ont plusieurs ateliers de danse africaine, il y a aussi des troupes. C'est présent aussi dans le cinéma, au cinéma studio ils font des soirées spéciales cinéma africain. Aussi dans l'écriture, il y a eu une conférence d'un écrivain africain à la fac. Et aussi dans la mode, comme dans ma rue, il y a un magasin de tissus africains par exemple. Et un coiffeur qui spécialise dans les cheveux des femmes noires et aussi dans la nourriture.
J'ai 19 ans. Et donc pour moi, la culture africaine, elle est présente à Tours dans toutes les formes d'art, dans les différents groupes de musique, dans la gastronomie, dans les clubs de danse, dans les associations. Et il y a souvent des événements liés à la culture africaine à Tours, comme le festival Plume d'Afrique ou des concerts à la guinguette. Cet été, il y en a eu plusieurs.
Bonjour, j'ai 20 ans, je suis étudiante à Tours, deuxième année d'anglais.
Pour moi, tour africaine, c'est la communauté africaine dans la ville, ses cultures, ses traditions en contact avec la ville de Tours.
Bonjour. Pour moi, aujourd'hui à Tours, la culture africaine est présente à travers les arts et surtout à travers divers événements organisés autour de thèmes spécifiques, particuliers du coup à cette culture africaine.
Pourquoi avoir filmé Karine Romer?
Il nous fallait une comédienne. C'est toi qui as eu cette idée. Encore une idée à toi. Karine Romer, c'est une de mes collègues. Hein. On travaille au Centre Dramatique ensemble. Et Yvan avait dit que le narrateur pourrait être un personnage de fiction dans le documentaire. Et elle est la personne la plus décalée, parce que la plus genre bourgeoise, aristo, vraiment très comme ça, très théâtre. Et on lui a dit, hein, c'est pas un truc de... C'est pas des... on lui a vraiment demandé d'accentuer vraiment ce côté-là. Voilà, je pense que c'était pour faire une sorte de contrepoint.
Oui. Sinon, on commençait le film par des cartons qu'aurait cité. Tout ce qu'elle dit, c'est les chiffres qui étaient disponibles à ce moment-là sur des données factuelles sur le quartier. Et notre idée, c'était de commencer par ces données factuelles et puis d'aller en dessous, d'aller à côté, d'aller au-dessus, de dépasser ces données factuelles. Ces chiffres ne disent pas grand-chose, en fait. Donc, qu'une comédienne dise des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose, c'était une manière d'entrer en matière. Tout ça, en passant dans ce train qui longe le quartier, mais qui a une vitre. Enfin, elle est de l'autre côté de la vitre, quand même. C'était la figure du film. C'était pour rentrer dans le film.
Ça, c'est des idées de réalisateur.
Oui, c'est toujours...
Voilà.
Pourquoi avoir filmé des vieux blancs?
Parce que Donc, moi, je travaillais dans le quartier et j'allais à toutes les réunions. Toutes les réunions, c'est ces personnes-là qui étaient. Il n'y avait pas les jeunes gens. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que je voulais vraiment qu'on réussisse à voir que dans ce quartier, les gens qui y habitent vraiment, qui y sont depuis longtemps, ce sont ces personnes-là et pas des jeunes gens. Et on voit un tout petit peu des petits à la fin. Voilà. C'était un truc radical. C'était vraiment... J'avais décidé de filmer des vieux blancs. Voilà, c'était mon truc. Yvan n'était pas d'accord, pas trop. Hein.
Mais le film que j'avais fait juste avant au Sanitas, on travaillait avec des jeunes qui nous étaient orientés par la mission locale, machin. C'est vrai qu'il y avait un peu une envie de casser ce truc-là aussi. C'est-à-dire dans la parole des jeunes dans les quartiers, ok, il n'y a pas que ça en fait. Et puis,
c'était la grande mode dans les années 2000.
Ouais, c'est ça, on est vraiment sur un truc historique aussi. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on ferait. Je pense que on partirait pas de ce point de départ-là. Mais à ce moment-là, il y avait quelque chose qui était assez réactif aussi par rapport à ce qu'on voyait des films de quartier. Il y a ce jeune gars, génial, qui nous explique l'histoire des tunnels dans le quartier du Sanitas. Qui raconte un truc absolument faux. Il parle des tunnels c'est les tunnels ou les couloirs?
C'est les caves, en fait. Il y a des mythes comme ça dans les quartiers. Vous habitez dans les quartiers? Vous avez déjà habité dans... Non dans les quartiers, souvent, en tout cas, dans tous les quartiers dans lesquels j'ai habité, dans ceux dans lesquels j'ai travaillé, il y a tout le temps des mythes, des histoires. Ouais, dans cette cave-là, si tu y vas, eh ben, elle rejoint tel endroit. Parce que si tu passes par là, il y a une petite porte. Et voilà. Et donc, lui, ben, il nous a servi ça.
Il nous a servi un truc génial, c'est qu'il nous parle des caves qui servaient de planques pendant la guerre.
Sauf que le quartier
il a été construit 20 ans après la guerre, mais ce qui était fabuleux, c'est que lui avait intégré un mythe urbain. Les caves servaient de planques aux résistants pendant la guerre de 40. 30 ans avant la construction du quartier. Moi, je trouve que c'est magnifique ce qu'il nous donne en disant ça. C'est pas vrai, mais la vérité dans le documentaire, c'est pas très intéressant en fait. Il y a l'impression de réel de ce type qui réellement vient nous raconter une histoire.
Donc vraiment, c'était par provocation en ce qui me concerne, vraiment de dire, parce que aussi, en fait, voilà, je travaille dans ce quartier, je fais toutes les réunions et il y a la mairie qui est très très présente dans ces quartiers-là. très très présente pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les jeunes, il faudrait faire un nouveau toboggan, est-ce qu'il pourrait pas y avoir du hip-hop, est-ce qu'on pourrait pas mettre des terrains de foot synthétiques, vraiment il faut qu'on fasse quelque chose pour les jeunes, voilà. Et ils se préoccupaient jamais de eux, en fait, de la relation que eux ils pourraient avoir avec ces jeunes, en fait. Et ils avaient vraiment juste envie de leur apporter quelque chose pour qu'ils oublient leur misère. Ça me donnait cette impression. Ça m'agaçait vraiment profondément parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose de très, finalement, condescendant. Genre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vous ? Il y avait même une dame, un jour, elle dit « Non, mais ce qui serait super, ce serait vraiment qu'il y ait un Père Noël en charrette qui passe et puis qui jette des bonbons. » Non, mais franchement. Donc, c'était insupportable pour moi, en fait, qu'il y ait cette volonté absolument de mettre les jeunes en avant, en montrant à quel point ils sont géniaux, etc. Eux, ils s'en fichent, ils faisaient leur truc, les jeunes. C'est-à-dire, ils vont à l'école, ils sortent de l'école, ils vont faire les courses. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Je me demandais bien, moi, par contre, qu'est-ce que faisaient les vieilles personnes ? Qu'est-ce qu'elles faisaient, elles ? Elles avaient habité là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans ? Pourquoi on ne les voyait pas ? Pourquoi ce n'est pas elles qui étaient mises en avant ? Pourquoi est-ce qu'elles ne feraient pas le lien dans le quartier ? Pourquoi est-ce qu'on ne s'appuie pas sur des gens comme ça, en fait ? Voilà. Vraiment pure provocation. C'était... D'ailleurs, les gens de l'Amérique qui nous ont financé un petit peu le film, ils n'étaient pas fans de l'idée.
On n'avait pas notre quota de jeunes.
Ouais.
Et c'était ça le truc sur lequel on ne voulait pas jouer. On ne voulait pas qu'il y ait un quota de jeunes. On voulait pas qu'il y ait un quota de noirs, on voulait pas qu'il y ait un quota d'arabes, on voulait qu'il y ait des quotas de que dalle. Les gens qui ont travaillé, vieux blancs. Bon, bah, ils sont pas tous.
Bon bah d'accord, blancs. Madame Bolongo, elle est juste sympa.
Bolongo, elle est pas toute blanche. Mais il y avait vraiment ce truc de dire, ça va. Fait, qu'est-ce que ça veut dire ce truc de représentation par quota ? Déjà à l'époque, aujourd'hui ça me fait absolument mais vomir de façon perpétuelle dès que j'entends des trucs audiovisuels. Tellement on est vraiment dans un truc communautarisé et truc de quota, on a travaillé d'abord avec des gens qui ont accepté de travailler avec nous.
Voilà.
Et c'était pas du blanco-centrisme en plus.
Moi si, j'avoue.
Oui, non, on était tous les deux déjà. On était déjà vachement répartis.
Ouais, on était répartis. Voilà, à l'époque c'était ça, c'était vraiment essayer de prendre un point de vue le plus radical possible pour voir ce que ça donnerait, en fait. Et ça donne un film plutôt sympa, où les gens sont sympas, en fait. Parce qu'il y a ça aussi, en fait. Les jeunes gens, dans les quartiers, dès qu'ils voient un vieux blanc, ils pensent que c'est un raciste. Et je me disais, bah, c'est bête. Voyons voir si ces gens sont vraiment racistes. En fait, on voit bien que pas du tout.
Tous les vieux blancs racistes, ils voulaient pas parler, tu sais, ils avaient rendez-vous, ils disaient ouais, demain je vous parle, ah je vais vous en sortir et tout, et ils venaient pas. C'est-à-dire qu'on venait tourner et ils étaient pas là. C'était assez chouette. On a eu ça je sais pas combien de fois, des types qui me disaient ah moi je vais vous expliquer vraiment le quartier. Vrai, toujours l'histoire du vrai.
Et puis voilà, ce qui est apparu, c'est tout hyper vite, c'est qu'en fait ils adorent habiter là et que c'est pas un quartier, c'est un village en fait. Et qu'ils se connaissent depuis longtemps, et que les enfants ils sont allés à l'école ensemble, et que en fait il y a eu des histoires, mais des histoires. Même à un moment donné, il y avait une vieille dame qui nous parlait des balles, comme dans les villages, des balles de 14 juillet là. Et puis à la fin, ça se finit en bagarre. Mais ça n'a pas à voir avec le fait que ce soit un quartier. C'est juste parce qu'il y a des êtres humains ensemble et ils ont trop bu à un moment donné. Je pense. Enfin voilà, j'avais ce côté-là, ce truc. Je voulais que ça ressemble à un village. En fait, il y avait même le premier titre, je l'ai vu. Hein. Le premier titre qu'on avait donné, c'était « Il y a plus de bruit que de linge aux fenêtres ». C'était une phrase d'une dame. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, il y a vraiment du bruit, les mobilettes, vous savez. Hein, voilà, il y a vraiment du bruit dans le quartier, tout ça. » Et ouais, mais il faudrait aussi faire quelque chose pour les gens qui étendent leur linge sur les fenêtres. Enfin, les conversations, c'est ça. C'est aussi les poubelles. Enfin, c'est le truc de la vie quotidienne. Et il y en avait une qui avait dit, il y a plus de bruit que de linge aux fenêtres. Et c'était waouh. C'est une phrase. Il fallait bosser sur le truc. Ça vous paraît ridicule ? non ? Dernièrement, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de noirs. J'adore. En fait, je suis allée, donc je retourne régulièrement évidemment au Sanitas. Et là, la dernière fois, c'était pour la fête de la musique sur, en face du Lidl. Vous connaissez le Sanitas un peu ? En face du Lidl et tout, en face du centre social pluriel. Ils avaient installé là une petite scène. Et j'adore le rap. Et donc, j'étais allée. Et puis, voilà, je trouvais que là... Et là, j'ai vraiment été scotchée par le nombre de noirs qu'il y avait. De petits, de grands, de vieux, de... et qui chantaient, qui étaient ensemble, qui étaient un espèce de gros crew. Je me suis dit, mais où sont les Arabes ? Donc, j'ai demandé autour de moi ensuite. Je me suis dit, mais en fait, ils sont où les Arabes ? Est-ce qu'il y a déjà eu des Arabes ? J'ai pas compris. Après, on m'a dit... Qu'est-ce qu'on a répondu ? Non, mais il n'y a jamais eu vraiment trop d'Arabes au Sanitas. Ils sont plutôt à jouer les tours. Mais ça se trouve, c'est du pipeau aussi, j'en sais rien, on m'a répondu. Mais oui, là, je trouve qu'il y a... Mais c'est de la jeunesse. Mais si, il doit y avoir des mamans et des papas. Il faudrait aller faire un tour. Il faudrait retourner faire un truc avec les vieux noirs.
Vas-y. je ferais bien un truc aussi avec les blancs, cadras... tertiaires qui vont s'installer.
Bah moi, je vais acheter un appartement au Sanitas.
Où ils sont en train de remplacer tout le quartier pour le gentrifier. Parce qu'en fait, c'est quand même ça aussi. On est en 2001. Aujourd'hui, vous avez toute la place autour de la place Saint-Paul qui va devenir des bureaux. La raison, même la dame qui s'occupe de la politique de la ville maintenant, quand on a repassé Politique Chronique, m'a dit, en fait, on a supprimé toutes les tours autour de la place Saint-Paul pour qu'il n'y ait plus de trafic de drogue à la station Total.
Ouais. C'était la plaque tournante.
C'est quand même, on rectifie 300 appartements parce qu'il y a une station de service où on vend du shit. Parce que maintenant, je voudrais avoir les chiffres aujourd'hui. Ça serait intéressant de voir en fait qui habite encore là. Et puis, ce qui va être très intéressant, c'est de voir dans 2 ans. Et puis, ce truc formidable, c'est que tu as entendu l'histoire du changement de nom de la station de tram.
Mais oui.
La station de tram va plus s'appeler Sanitas. C'est déjà le cas ? Ok, je prends pas le tram, je suis claustrophobe. Et ça, c'est par rapport à ce que disent les gens là dans le film. Quand on commence à retirer le nom à un endroit, finalement, ouais, c'est un peu comme quand on coupe la lumière. Quand on retire le nom à un endroit, on retire au nom le fait de dire j'habite quelque part. Mais c'est parce que pour préparer les nouvelles personnes qui vont venir habiter là, et ça va s'appeler, je sais pas quoi, cœur de ville, trois quarts de ville, trois quarts de cœur, foie de ville.
Je sais pas, mais...
Estomac de ville, je sais pas, quelque chose. Mais voilà, on retire le nom, quoi. Ce quartier s'appellera plus comme ça, un jour.
Les gens... Je sais pas ce que toi, t'as retenu comme réaction. Moi, j'ai retenu comme réaction que les gens, ils kiffent leur quartier. Ils sont très impliqués dans leur quartier. Très impliqués. Eh bien, carrément. Parce que je vais... je t'assure, moi...
Le associatif, il s'est cassé la gueule.
Ah, pas du tout. Oh. Je suis retourne au centre social pluriel. Ouais. Régulièrement, parce que, donc, comme je travaille au théâtre, moi, je continue l'idée que, venez voir des trucs. Parce que j'aime bien, en fait, le théâtre. Et donc, mon métier, c'est de dire aux autres, venez voir si jamais... Voilà. Donc, j'y vais régulièrement... au centre social pluriel, et c'est hallucinant, parce qu'ils ont réussi à faire qu'il y ait des habitants, en tout cas c'est ce que j'ai vu moi, qui sont complètement impliqués dans le truc. Mmh. Ils kiffent. Et il y avait par exemple, pendant... T'as participé à ça toi, Mélissa? Tu sais, ils ont fait place Meffre, mais il y a plein de petits, des dames, mais au début il y a presque personne, après il y a des gens, enfin je sais pas, mais moi je sais qu'ils aiment leur quartier. Et moi je l'aime aussi ce quartier. Donc ouais, j'en suis sûre et certaine. Après, il y aurait les mêmes... Tu sais, il y a besoin d'histoires, de mythes. Ouais, mais va pas par là, parce que tu sais, c'est dangereux. Il y a besoin que ce soit... qu'il y ait une histoire. Il y a besoin que ce soit pas un truc tranquille, paisible. Voilà.
Pourrait-on refaire le même film aujourd'hui ?
Après, quand on n'est pas journaliste et qu'on fait du documentaire, on ne refait pas un film parce qu'on l'a fait 20 ans avant. Ça, c'est aussi un truc, parce qu'on nous a toujours posé la même question. Et si vous refaisiez ? Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on referait ? Je ne me sens pas d'obligation en 2019 de faire un truc que j'ai fait en 2001, en fait. Que les autres le fassent, qu'ils s'en dépatouillent, etc. Mais ça correspond à un moment où on a une nécessité de faire un film et pas un autre. Après ce film, je me suis mis notamment à travailler avec des cheminots pendant 10 ans.
C'est vrai.
Même chose, l'idée de la mémoire collective m'intéressait vachement. M'intéresse toujours beaucoup. J'ai rencontré une bande de cheminots, on a fait des films ensemble sur le Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps, qui est un truc énorme où il y a 1 millier de mecs qui bossent. C'est une boîte qui a 100 ans, etc., qui a une histoire pas possible. Et le travail était le même. Comment un groupe crée sa propre mémoire et la raconte? Et comment est-ce qu'on la raconte pour d'autres? Pour les gens qui ne la connaissent pas. Donc j'ai l'impression que j'ai continué le même boulot, mais avec un autre endroit. Pas beaucoup de décart, hein, 5-6 km, 3 km, 2 km. Le quartier ferroviaire historique de la ville de Tours, c'était le Sanitas, comme quelqu'un le dit dans le film à un moment. On construisait des rails à cet endroit-là.
C'est évident, mais en fait, le truc, donc c'est ce mot-là, gentrification, ça veut dire devenir plus riche, je crois. Un truc où il va y avoir plus de riches. Mais le truc que, je sais pas si on l'avait montré dans le film, mais on avait vu que le maire de Tours, Monsieur Royer, qui avait commandé la construction de ces immeubles, voulait que ce soit le Sanitas, voulait que ce soit un quartier résidentiel. C'est pour ça qu'il l'a fait tout à coup. Enfin, c'est en plein centre-ville, en fait. Lui, c'est ça. Il voulait pas que ce soit un quartier d'habitat social tel qu'on l'imagine. Avec donc des pauvres, des noirs et des arabes, et des étrangers qui viennent des pays en guerre et tout ça. Ils ne voulaient pas de pauvres, en fait. C'était vraiment pour la classe, je crois qu'on l'appelle moyenne. C'est la classe moyenne, c'est-à-dire la dame qu'on voit, Christiane Drac, elle était infirmière. Il y avait des profs, des gens comme ça, dans les années 60, au tout début, en fait. Et ces gens-là, et d'ailleurs, le monsieur, il le dit, ces gens-là, il disait... déjà, c'était un truc vachement mieux que ce qu'ils avaient avant, parce qu'ils avaient le truc des baignoires, chacun sa chambre, la cuisine et tout ça. Déjà, l'eau, en fait, courant, tout ça. Donc ça, c'était des Français de souche qui étaient contents d'avoir ces logements-là. Et le monsieur, là, le maire, monsieur Royer, il avait vraiment construit ce quartier, genre, je me la pète. On fait un quartier chic. Ça s'est démodé juste très vite, mais c'était un truc hyper moderne, en fait. Il y avait le chauffage au sol, tac, une baignoire. Enfin, ça faisait... Aujourd'hui, on fait... Mais en fait, c'était vraiment un quartier résidentiel. Et puis après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on dise que... c'est un quartier qui est populaire. Et en fait... Il se gentrifie, mais finalement, c'était son but initial d'être le truc des riches. C'est son karma, ce quartier.
Je crois qu'entre les vieux travailleurs algériens qui en parlent à un moment, ouais. Et puis il y a ce monsieur moustachu.
Monsieur Chagnon, François Chagnon, j'ai vu la semaine dernière au théâtre.
En fait, il explique que tout ce qui était les rues qui maintenant sont des rues bourgeoises autour du Sanitas, c'était des bidonvilles après la guerre.
Ouais.
Donc en fait, les gens sont passés des bidonvilles ou de baraques qui étaient vraiment insalubres au Sanitas, qui était le summum du chic pour la classe moyenne. Les Algériens qu'on a fait venir en France pour fabriquer le Sanitas, ils sont allés vivre où? Dans les bidonvilles.
Ouais.
Que quittaient les Blancs pour aller vivre au Sanitas. Et puis 10 ou 15 ans après,
ça tourne.
Les Blancs qui pouvaient se tirer du Sanitas se sont tirés, et c'est les Algériens des bidonvilles qui sont venus habiter. Et aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe qu'en fait, on est dans une ville qui a une densification urbaine dingue. Et on se dit, mais ce quartier qui est en plein centre-ville...
Il y a de la maille à se faire.
Il y a énormément d'argent à se faire, parce que c'est un quartier qui est très, 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 très bien situé. D'où le...
Voilà.
On va raser. On a fait un film avec Léa 2 ou 3 ans après sur la destruction d'une tour, d'une première barre d'immeuble. Il y avait 300 apparts, je crois.
Ouais, plein.
Ils ont déjà détruit une barre d'immeuble de 300 logements.
Et ils ont fait un jardin qu'ils appellent le jardin Meffre.
Et après, ils ont fait des pépinières d'entreprises autour. Tout ça, c'est pas innocent du tout. Hein. C'est des choix de qu'est-ce qu'on fait des zones urbaines. Et puis dans ce jardin Meffre, ils ont mis des caméras de surveillance partout.
Ça, c'est bête, ouais.
Et maintenant, ils coupent les arbres pour que les caméras de surveillance puissent continuer à filmer l'intérieur du jardin. Enfin, c'est... On ne ferait pas le même film si on le refaisait. En fait, on a préparé à des gens des trucs en leur disant, vous allez voir, c'est vachement mieux pour vous. Et les gens qu'on rencontrait beaucoup, les gens qu'on a rencontrés sur la destruction de cette tour d'immeuble disaient mais c'est notre histoire qu'on a rasée en fait. Pas sûr qu'ils en voulaient du joli jardin minéralisé avec deux trois petites plantes pout-pout-pout comme ça à droite à gauche. C'était des zones de vie quoi. Vous avez cette dame qui s'appelle Madame Drac qui parle des tas de falins où ses gamins jouaient. C'était pas des programmes d'aménagement pour que la population soit bien, etc. C'était un truc qui était là pour des travaux. Enfin, je pense que ça, c'est un truc que vous avez sans doute tous pu éprouver. Les coins qui deviennent vos coins intimes, c'est rare que ce soit des coins qui sont prévus pour au départ. C'est rare qu'on dise, là, tu vas t'amuser. Là, tu vas réfléchir. Là, tu vas ceci, là, tu vas cela. Non, on se fabrique des espaces à l'intérieur des espaces. Et le quartier de mémoire travaille cette question-là. Jusqu'à ces histoires de chemin. Ben oui, quand des architectes font un chemin qui fait comme ça et puis comme ça, ben, au bout de 3 ans, vous avez un chemin qui est comme ça. Parce que les gens, ils n'ont peut-être pas forcément trouvé que la trouvaille architecturale qui était de faire ceci, puis ceci, pour aller de ce point-là à ce point-là, ben, ils prennent ce plan-là, ce point-là, et donc ça fabrique un chemin. C'est un peu ça qu'on essaie de raconter.
Ouais.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, très clairement, on développe sans arrêt des tranches de reconstruction, de réhabilitation urbaine, de machin, etc. Et ça ne se passe pas très bien, les concertations. Hein. C'est pas... pas la joie, quoi.
Donc là, l'idée, c'est effectivement de faire, parce que le grand projet, c'est de faire qu'on soit mixte. Parce que vous, ça doit vous paraître peut-être aberrant, ces questions. D'être riche, pauvre, vieux, jeune, etc. Ici, vous habitez à Tours. Vous habitez où à Tours? Ouais, c'est, je vous parle.
C'est une réponse compliquée.
Oui, mais où? Je veux dire, dans quel quartier? Par exemple, tu habites dans quel quartier?
Moi, j'habite à
Marie-Mirette. Ok. 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 Plume? Ouais. Ouais. Comment?
Valvin.
Pardon. Ouais. National. Ouais. Prébande. Jean Jaurès. Plume. National. Joué. Oual. Tanner. Ok. À côté de la fac. Oual. Ça, c'est vos. Mais personne au Sanit.
Personne au Sanit.
D'accord. C'est marrant, ça.
Quand on était étudiant, c'était le Sanitas.
Ouais.
Les résidences étudiantes.
Il y avait des chambres universitaires, on avait des potes étudiants qui avaient des appartes. Ouais. Et donc, on allait faire la fête là, ils faisaient des colocs. Il y avait des colocs de 4-5 étudiants, puisque c'est pas cher, on peut. Voilà.
Là, on fait vieux, quoi.
Non, je trouve ça super, parce qu'en même temps, le truc, par exemple, c'est. Par exemple, le quartier Plume, est-ce que c'est un endroit qui vous interroge, vous y allez régulièrement, tous autant que vous êtes, oui? Bah boire des coups, bah oui, c'est la base. C'est là qu'on va boire des coups. On est d'accord avec ça? Ok. Bah, et c'était pareil. Ça a toujours été.
Mais non, mais c'était la zone absolument infréquentable de Tours dans les années 60.
Oui, c'était insalubre, il y avait des rats et tout.
Oui, il y avait des.
Ce qu'on nous
pareil,
a dit. Hein.
C'est le même maire Royer qui a été maire de Tours pendant 40 ans, qui était un drôle de gars, qui a réhabilité complètement ce quartier, qui est devenu le summum du vieux quartier historique, machin, etc. Alors que c'était vraiment. C'était le quartier de relégation sociale complet.
Les pauvres, de chez pauvres. Et du coup, ils sont allés où, ces pauvres? Ils sont morts.
Ils ne sont pas restés. Hein. Ça, c'est sûr que quand il y a eu quand le vieux tour a commencé à devenir cher, c'est à chaque fois le même principe. Mais en fait, on relègue progressivement dehors de la ville.
Voilà. Et là, on est en train de vous annoncer un scoop. Ça veut dire quoi? Ce scoop, c'est le futur quartier, the place to be, c'est au Sanitas.
Une liste de peuplades, de communautés, de gens qui habitent dans des endroits.
Les Araucariens se retrouvent chaque année au solstice d'hiver pour couper des cheveux en quatre.
À Saint-Amour, les habitants ne s'aiment pas forcément.
Alors, les Saint-Cyrois boivent toujours leur café amer. Les Toubons plantent des salades pour avoir des endives en hiver.
Et chez les Rémois, le jour de ses 20 ans, on se fait percer les oreilles et le nombril.
Les Ballons-Miréens aiment à se retrouver vers 15h50 autour de l'arbre du rond-point.
Les Normaux sont légions. Ils couvrent sournoisement la terre. On a même l'impression qu'ils sont en train de couver des œufs. Il en sortira des normosés couleur drapeau local.
Les capillotracteurs apprennent à leurs enfants à éplucher des cacahuètes dès leur plus jeune âge.
Les Boriciens construisent toujours leur maison en hiver.
À chaque changement de lune, les Irmans se rassemblent au monument aux morts et font une salutation au soleil par esprit de contradiction.
Les Gugus se faufilent sous les ramures. Au royaume des Oulipiens, tout le monde se promène avec un livre de Pérec sur la tête.
Les habitants des fonds marins, non, ce ne sont pas des poissons, ce sont des poisons. Les morts n'habitent pas les cimetières, ce sont les cimetières qui habitent les morts. Les habitants de la Lune ne lisent pas Chateaubriand, ils rêvent.
Les Sorinias ne parlent jamais en présence d'un chat.
Chez les Bénabalais, l'usage veut que l'on dorme à quatre têtes bêches dans le même lit.
Et du coup, en ce qui concerne la technique des ateliers d'écriture, ça peut peut-être vous servir, mais ça peut peut-être.
Ah ben, vous complétez sur la prise de parole.
Alors, le truc, c'est... en fait, ça fait encore un autre pas de côté quand tu fais écrire... donc, choisir que des vieux blancs, bon, voilà, d'accord, c'est Provo et tout ça. Mais se poser, et même si c'est de 1 à 1, et dire... prenez 5 minutes, 10 minutes pour faire la liste de tout ce dont vous vous souvenez sur votre chemin quand vous allez de là à là. Donc les gens sont là, oh là là, mais il y a tellement de choses. Et, mais le fait, et ils pourraient le dire à voix haute. Mais en fait, le fait qu'ils l'écrivent, ça repose quelque chose, ça réancre quelque chose. Donc ils l'écrivent, ça peut peut-être être 4 mots, 5 mots, et après, ils le disent à voix haute. Ils lisent ce qu'ils ont écrit. Et le fait de lire ce qu'ils ont écrit, ça fait apparaître un autre... Enfin, ça fait qu'ils parlent encore d'autre chose. C'est ce que tu disais, mais... c'est ça que ça fait, en fait, de faire écrire. C'est un peu laborieux, surtout quand on est en face à face, ça fait un... Mais si, ça va être super. Enfin, il faut amener un petit peu d'énergie, mais on peut essayer comme ça... de faire quelques propositions d'écriture très contraintes, assez ludiques, qu'on peut aller chercher du côté des Oulipiens. C'est des trucs tout bêtes. Hein. Moi, je continue à faire des trucs comme ça et c'est toujours intéressant. Par exemple, un abécédaire. Donc, tout simplement, tu fais écrire l'alphabet. Alors, les gens, ils sont là, oh là là, c'est loin. Oh, mais si, je m'en souviens. Déjà, ça rend le truc, ça peut rendre le truc sympa. Et en face de chaque lettre, tu leur dis, bon, bah, en face de chaque lettre, on trouve un mot, et ce mot pourrait correspondre à, pour vous, Tours, pour vous, l'Africaine. En fait, un truc vraiment simple, qui a l'air un peu neuneux, basique. Mais en fait, ensemble, on le fait. Il faut le faire avec la personne. Et puis, le temps que la personne passe à poser ses mots, en fait, ça crée un machin chimique magique à l'intérieur. Et ensuite, au bout de 10 minutes... on va lire ces mots-là et c'est la lecture de ces mots qui va dégager une parole et qui va être... Ça se trouve complètement à côté, mais ça se trouve un souvenir, ça se trouve... Mais en fait, on va tout à coup rentrer dans une conversation qui aura pour appui les mots qui auront été écrits. Et c'est souvent hyper intéressant. Merci.
Léa Toto et Yvan Petit répondaient aux questions des étudiants de licence 2 de l'Université de Tours dans le cadre du cours Tours, l'Africaine, point d'interrogation. Ils parlaient du documentaire Quartier de mémoire sur le quartier du Sanitas.
Sable, torse nu.
étoiles quand je danse torse nu. J'aime surfer sur les vagues torse nu. Construire des châteaux de sable torse nu. J'aime danser comme un sauvage sur la plage presque nue. J'aime danser comme si j'étais le plus beau mannequin de la vitrine. J'aime bouger comme si j'étais Madonna qui fait du voguing. J'aime poser comme si j'étais Ratakovski en plein shooting. Et c'est confiance dans la poitrine, adieu le bouton de ma chemise en jean. Et toi t'aimes me voir danser torse nu.
La bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours, et moi mon truc c'est la BD, donc bah, tout à l'heure je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises.
Non,
je vois bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours.
.com.
.com.
Je voudrais parler de Popeye. Une super BD qui est sortie il n'y a pas longtemps, voilà. Le scénariste c'est Antoine Ozanam et l'illustrateur c'est Lélis, Marcello Lélis, quelque chose comme ça, qui est d'origine brésilienne, qui a déjà fait deux autres bandes dessinées avec Ozanam, dont une qui s'appelle Gueule Noire, qui parle du travail dans les mines de charbon, et donc qui est en noir et blanc. Je crois qu'elle a eu un prix, enfin en même temps c'est pas forcément important qu'elle ait un prix ou pas. Donc début 20e, le petit gars là, je sais plus comment il s'appelle Marcel. Il travaille dans les mines, il n'a pas le choix avec son père. Hein, il est tout jeune, il a une quinzaine d'années. Et puis, ben, ça ne lui plaît pas trop parce que forcément, tous les gens qui connaissent un petit peu, de par les écrits de Zola ou le film de je ne sais plus qui, comment ça se passe dans les mines, ce n'est pas franchement joyeux. Et du reste, le gars, ben, il va quitter les mines parce que ben, son père va mourir suite à un coup de grisou. Donc, il part, il va aller vivre à Paris. Il s'imagine qu'à Paris, ça va être super. Sauf que ben, vous lirez la BD pour vous rendre compte que ben, le gars, pas une BD gay du tout. Mais très intéressante, et avec un dessin assez extraordinaire de ce Lélis qui va ensuite illustrer Popeye pour le même Ozanam. Et là, c'est de la couleur, c'est du pastel, pastel très pâle. Personnellement, je trouve ça très beau.
C'est beau, ouais. C'est un peu à côté, je trouve, un peu tremblotant dans le dessin, mais justement, ça le rend très original.
C'est tout à fait ça. D'ailleurs, il y a des critiques qui en parlent fort bien. Et qui disent un dessin vibrant, voilà, le dessin vibrant. Alors. Moi, je trouve que c'est un côté impressionniste en même temps.
Du coup, il est très...
Alors, il reprend l'histoire de Popeye en expliquant... En fait, il faut lire la BD, voilà. Il faut lire cette BD, parce qu'à la fin, vous allez comprendre comment le gars qui a créé Popeye... Donc, le gars, il s'appelle Elsie Chrysler Sega. A priori, un jour, il a rencontré un marin, quelque part aux États-Unis, je ne sais plus dans quel coin il est. Il va observer ce marin et tout ça. Et puis, bon, on est au début du 20e, je pense. Et puis, ben, il y a des potes aussi qui vivent de la pêche. Mais sauf qu'il nous explique dans cette bande dessinée qui s'appelle Popeye... Un homme à la mer. Ça devient très dur, la pêche, parce que ça devient industrialisé. J'ai relevé des notes, mais je ne sais même pas où... Les temps ne sont pas bons pour Mathurin et ses amis. Pas que. La pêche s'industrialise. Le poisson manque désormais au filet trop modeste. La crise est un climat idéal pour revisiter le mythe. Bourrer sa pipe. La casser parfois et semer des embûches dans le village. Revisiter de celui qui est un des marins les plus célèbres du 9e art. plus côté ad hoc que Corto, parce que bon, éventuellement, il peut dire des gros mots, quoique pas forcément. Il a une façon de parler qui est un peu rude, un peu, bah, surtout très naturelle, en fait, pour un pêcheur, voilà. Et bien sûr, il va rencontrer Olive. Il va rencontrer Olive dans un bistrot. Alors, c'est pas du tout le dessin qu'on connaît de Popeye. C'est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre. Mais justement, c'est ça qui fait l'originalité et la beauté, parce que franchement, je trouve que c'est, ouais, c'est du très beau dessin. Et puis, bah, Olive, elle est aussi extraordinaire comme femme qui travaille dans un bar. Donc, je l'ai déjà dit. Il y a son frère aussi qui va aller faire une chasse au trésor. Donc, il va pouvoir entraîner Popeye. Je vous explique pas par quel biais. Et puis, il y a aussi un grand ami de Popeye, mais il est tout petit parce qu'il lui arrive à peu près au genou avec sa femme qui est plus grande que lui. Ils ont un petit gamin qui pourrait être le Mimosa qu'on retrouve plus tard dans les Popeye qu'on connaît. Et j'explique pas comment ça va devenir le petit garçon finalement de Popeye. C'est parce que c'est plein d'émotions cette BD. Ça parle essentiellement d'amour, d'amitié, de mère et de conquête de la vie. Voilà.
On peut rappeler une dernière fois peut-être l'auteur, le dessinateur et la collection.
Alors l'auteur, le scénariste, c'est Antoine Ozanam. Le dessinateur, c'est Marcello, quelque chose, l'hélice, donc qui lui est brésilien, Ozanam il est français. D'ailleurs, il fait de l'auto-édition, enfin, un compte d'éditeur. Il travaille beaucoup avec le magazine Arc, là, de bande dessinée.
Arg.
C'est un magazine qu'on a chez nous aussi en section.
Périodique.
C'est périodique, voilà.
Si on l'a.
Bon, peut-être que les jeunes n'y connaissent pas. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez Popeye, les jeunes, les lycéens et les...
Quand même.
Oui, vous connaissez Popeye ?
Je pense quand même.
Bon. Parce que là, quand on parle de Popeye, on pense souvent aux épinards. Là, il en parle un petit peu dans cette BD, mais pas tant que ça, finalement. Sa force, elle est plus, je pense, mentale et... C'est pas que les épinards, quoi. Donc, si on parle de son papa, on explique aussi pourquoi il s'appelle Popeye. En fait, alors, c'est pas Popeye, c'est Popeye. Normalement. Pop-eye. Eye comme les yeux.
Ouais, d'accord.
Vous comprendrez en lisant la BD, il faut absolument la lire. Donc le gars, il explique quand même. Cette histoire n'aurait jamais pu voir le jour sans les passeurs de rêves que sont Florence Sestac et Étienne Robial pour avoir publié les albums de Popeye en France. Donc Florence Sestac, c'est une dessinatrice. On a pas mal de BD d'elle que vous pouvez venir aussi emprunter à la bibliothèque parce qu'elle a beaucoup d'humour, cette femme. Elle dessine tous ses personnages avec des gros nez. Et donc ce sont les créateurs aussi, ceux qui ont monté la boîte d'édition Futuropolis, je ne me trompe pas,
les éditeurs,
oui, Futuropolis, je crois, c'est ça. Il remercie aussi la marque jaune à Saint-Germain qui m'a mis les livres entre les mains il y a des années. François Corteggiani et Carlos Trio, mes influences et profs de scénario malgré eux. Et bien sûr, merci à Elsie Chrysler-Segar pour Popeye et pour le rêve qui a suivi. C'est l'auteur qui a écrit ce livre qui dit ça. Et aussi, ça commence par une jolie phrase. Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. C'est Aristote qui a dit ça. Pour les lycéens, Aristote, vous connaissez ?
Alors, je vois qu'il y a un autre Popeye.
Bah, c'est le vrai, là.
Ça, c'est le vrai. Ah, il y a un autre album de Popeye.
C'est le vrai, mais c'est vrai que bon, bah, Astrid, par exemple, qui a des enfants de 8-9 ans, bon, les filles, bon, elles connaissent Popeye. Moi, c'est vrai que quand j'étais gamine, j'aimais bien ce Popeye. Donc, Popeye the Sailor Man, avec sa Olive, qui est beaucoup plus grande que lui, toute fine. Alors ça, on la retrouve dans la BD de Ozanam et Lélis, qu'effectivement, elle est grande et mince, plus grande que lui. Enfin, lui, il n'est pas tout petit non plus, hein. C'est son copain qui est tout petit. Et puis il y a le petit bonhomme aussi. Mais là, c'est étonnant en fait de lire cette BD. C'est pas comme les films qu'on voit, qu'on voit à la télé, quoi, en fait. Hein. C'est le même dessin, mais bon, c'est un humour un peu étrange, quoi. Parce que là, elle rencontre une actrice. Je sais pas, c'est curieux.
C'est à quoi de curieux alors cet humour ? Qu'est-ce qui est étonnant ?
Bah, c'est déroutant. Enfin, moi, je trouve ça déroutant, mais j'ai du mal à expliquer là.
Parce que c'est un gag visuel ou c'est...
Ben c'est plus la rencontre de personnages auxquels je ne m'attendais pas par rapport à Popeye, parce que c'est vrai que le souvenir que j'en ai, c'est plus, ben, effectivement, Popeye, c'est boîte d'épinards, il se fout sur la gueule, on peut dire, avec d'autres grands méchants, le Brutus qu'on retrouve là-dedans, je crois.
Donc, en fait, l'auteur a, ben, recyclé, n'exagérons rien, mais il a repris les personnages du Popeye initial pour en faire autre chose.
Voilà, il a repris certains personnages. Et surtout, oui, le dessin est complètement différent, les couleurs. Enfin, oui, ça fait un côté, je trouve, un peu impressionniste quand même. Moi, j'ai envie de dire ça, comme ça. Je pense que pour les gens qui aiment la peinture, ça vaut vraiment le coup de moins de regarder, puis après d'essayer de le lire. Et bon, il n'y a pas énormément de texte, donc ça peut être lu assez rapidement. Compris aussi, c'est pas trop...
C'est à nouveau un regard en fait sur le héros. Donc c'est intéressant d'avoir des déclinaisons comme ça par rapport à... On a tous été nourris, on va dire, au Popeye. Et ben voilà, lui, il en donne sa version. Et puis en même temps, il la modernise. Voilà.
C'est très émouvant, en tous les cas. Voilà. C'est un bon moment.
Est-ce qu'on peut imaginer peut-être une exposition autour de Popeye? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez inventer? Ou une animation autour de Popeye pour un public jeune?
Jeune et pas forcément.
Enfin, oui, là, Popeye, je dirais que c'est un peu intergénérationnel parce que les gens qui ont 80 ans, comme les enfants de 5 ans, peuvent avoir vu ou du moins entendu parler de Popeye. Mais après, c'est vrai que oui, une animation, une exposition, c'est faisable de demander les planches des illustrateurs notamment et d'en faire des expositions et inviter l'auteur à expliquer sa vision à lui de Popeye et pourquoi, l'idée, comment il s'est documenté, ce qu'il a voulu apporter par rapport à l'histoire que lui connaissait, enfin, avoir son regard à lui sur ce héros.
Ou alors un atelier de fabrication de BD, mais intergénérationnel, où des enfants viendraient avec leurs grands-parents. Je pense à ce que ça peut être fait avec quelque chose comme Tintin,
c'est par exemple. C'est ce que je veux dire, Tintin, Astérix, Obélix, c'est ce genre de héros qui ont traversé les âges. Ça parle à tout le monde. Donc,
Puis il y a des films aussi.
Oui, voilà.
Des petites séries sur Popeye. Bien sûr, je pense que c'est peut-être plus comme ça que les enfants le connaissent, non?
Oui, oui, tout à fait.
J'imagine,
oui.
D'ailleurs, c'est plus trop utilisé comme figure en publicité parce qu'à une époque, on voyait quand même Popeye dans des pubs, des trucs et tout. Et là, j'ai l'impression qu'il a moins le vent en poupe.
Oui. Ah, puis le couple, en fait, est assez drôle, assez déconcertant, quoi. Cette grande tige avec son mari, c'est un couple attachant, quoi. Popeye et Olive.
Et donc ça se trouve où à la bibliothèque municipale?
Et bah dans le bac, l'un des bacs bande dessinée de la bibliothèque à BDLELI.
Donc il y a un exemplaire à la bibliothèque centrale, un exemplaire à Tournord.
Ouais.
Et voilà, soit il est disponible, soit vous pouvez le réserver en allant sur le site de la bibliothèque, en vous connectant sur votre compte et vous réservez le... Si, c'est bien d'avoir un compte bibliothèque. Hein.
La Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire s'associe à Radio Campus Tours pour donner une fois par mois la parole à un acteur de la recherche en sciences humaines et sociales dans son émission La Méridienne.
Structure fédérative des équipes de recherche en sciences humaines et sociales des universités de Tours et d'Orléans avec le CNRS, la MSH a pour vocation de favoriser les échanges interdisciplinaires et soutenir les projets émergents.
En appui à la recherche, son atelier numérique offre un panel de services pour accompagner chercheurs et doctorants de l'élaboration à la valorisation de leurs projets.
Pour plus d'informations, consultez le site internet www.msh-vdl.fr.
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Thank you.